Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et ravi de vous retrouver. Prenez place autour de la grande et belle table de Radio Foot. Nous avons sorti nos plus belles nappes et nos plus beaux couverts puisqu'un invité exceptionnel vient partager un moment en notre compagnie, un grand serviteur du football africain, auditrice, auditeur, Idrissa Ganagay sera avec nous dans quelques instants. Oui, Idrissa Ganagay, le champion d'Afrique, le milieu du PSG, le taulier de la tanière sénégalaise. Idrissa Ganagay, ses trois poumons, sa tête bien faite et son cœur énorme, joueur résolument tourné vers le collectif, le généreux lion de la Teranga nous parlera de son association For Hope. Il en est le cofondateur et l'ambassadeur. For Hope qui vient en aide aux personnes en difficulté en France comme au Sénégal, dans différents domaines, notamment celui de la santé. Idrissa Ganagay dans Radio Foot. C'est aujourd'hui autour de la table également ce mardi. Naïm Moniol, bonjour Naïm.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
Jean-Philippe Bouchard, bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
Simon Bourtembourg, notre Diablotin. Bonjour Simon.
Bonjour Hugo, bonjour à toutes et à tous.
Et Hervé Penaud, bonjour Hervé.
Bonjour et quel plaisir d'être en votre compagnie, surtout en compagnie de Ganagay.
Nous c'est bien, Ganagay c'est encore un petit peu mieux, un petit peu plus exceptionnel, on va le reconnaître. Hervé, vous co-signez dans l'équipe, le journal L'Équipe du jour, un article sur les coulisses de la saison désastreuse, le mot est choisi, de l'Olympique Lyonnais, un article éclairant. Comme toujours, évidemment, sur les dysfonctionnements d'un club ambitieux, jadis un modèle, aujourd'hui un piètre huitième de Ligue 1. On en parle tout à l'heure en fin d'émission. Alice Ménard est aux manettes de Radio Foot. Aujourd'hui, c'est parti.
Il faut valoriser aussi le travail de l'ombre d'un joueur comme Idrissa. Et c'est surtout une super personne humainement, donc il mérite tout ce qui lui arrive.
Bien joué, pas de hors-jeu pour Kylian Mbappé. Le centre, c'était pour Neymar. Game on! Exploser le Parc des Princes après seulement 7 minutes de jeu sur sa première occasion. Paris mène 1-0.
Vous pourriez acheter un maillot Ganagay ou non? C'est encore pour les stars.
Je préfère acheter un maillot Ganagay qu'acheter un maillot Neymar, Messi. Neymar, Messi, c'est du déjà vu.
C'est un garçon qui a pétri de talent. Mais comme je l'ai dit, un club c'est différent. En équipe nationale, il est hyper fort quand même depuis pratiquement plus de 10 ans. Il a du vécu et il faut qu'il arrive à un moment donné à contaminer tous les joueurs qui sont à côté de lui, de cet esprit de gang qu'il a, d'agressivité.
Sadio Mané, il est passé côté gauche face à Ouédraogo, le tour de la but. Le but sénégalais, le deuxième but sénégalais, Idrissa Ganagay, 100% PSG ce soir.
On sert le milieu comme gay, de gauche à droite, juste terrain comme gay.
En 2011, les Sénégalais découvrent un nouveau venu dans leur tanière, un milieu de terrain à tout faire, à tout très bien faire même. Récemment, sacré champion de France avec Lille à ce moment. 11 ans, 89 sélections plus tard, l'enfant de Dakar, pépite de Diambar, est devenu une légende. Passé par le nord de la France, le nord de l'Angleterre, joueur du PSG depuis 3 ans. Surtout champion d'Afrique avec son pays depuis quelques mois, le Sénégal, dont il est l'une des vedettes, avec lequel il s'apprête à disputer un deuxième mondial. Idrissa Ganagay, joueur remarquable, homme engagé, milieu axial, voire défensif, qui ne comptabilise que 2 cartons rouges directs à 32 ans, en plus de 10 ans de carrière. C'est donc forcément quelqu'un de bien. Bonjour Idrissa Ganagay.
Bonjour Hugo.
Merci beaucoup d'être avec nous dans Radio Foot International sur RFI. Ce n'est pas seulement le footballeur qui est avec nous aujourd'hui, mais le cofondateur et ambassadeur de l'association For Hope. Parlez-nous précisément, j'en ai dit quelques mots, mais parlez-nous précisément de cette association, votre association For Hope, et de ses actions, s'il vous plaît.
Tout d'abord, merci à vous de me recevoir. Et c'est un plaisir de discuter avec vous, et surtout de vous parler de ce que je fais en dehors du foot avec ma femme, avec mes amis. On a créé l'association For Hope pour venir en aide les gens qui en ont besoin en Afrique, en Europe. Ça fait déjà un an qu'on existe. On est une jeune association, mais on a beaucoup d'ambition et on a envie de faire beaucoup de choses dans le futur.
Alors, quelles sont les actions concrètes, par exemple, que vous pouvez nous citer en exemple pour qu'on ait une idée très claire de votre apport, de l'apport de votre association?
Déjà, pendant le Covid, on a fait beaucoup de dons au Sénégal pour venir en aide l'État et le pays et surtout des familles qui en ont besoin. Donc, on a acheté des extracteurs d'oxygène, des masques, gel, Et on a pu amener aussi quelques tables pour, dans les hôpitaux, pour les hôpitaux qui en avaient besoin. On a fait quelques maraudes à Paris, aider les étudiants qui en avaient besoin aussi. On a fait plein de choses en si peu de temps et on en est très très fiers. On espère qu'il y en aura beaucoup d'autres qui vont suivre.
On l'entend, des actions concrètes, importantes. Soirée de gala, un dîner caritatif sera organisé après-demain, jeudi, à Paris, pour lever des fonds, agir dans le domaine de la santé. On reste dans ce domaine qui est l'un des domaines d'action de For Hope. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce dîner caritatif à Paris, lever des fonds pour notamment aider les enfants malades et lutter contre le cancer et le sida en Afrique ?
Oui, c'est exactement ça. En fait, on est une association qui œuvre dans le domaine de la santé, l'environnement, l'éducation et l'alimentation. On avait pour projet de venir en aide à 24 villages au Sénégal pour leur amener l'eau, l'électricité, qu'ils puissent être autonomes. Et cette fois-ci, le 12, en fait, on a organisé une soirée de gala pour lever des fonds, pour venir en aide les enfants qui ont le cancer, le sida, parce que, comme vous le savez, en Europe, il y a beaucoup d'aide dans le domaine de la santé. 80% des enfants qui sont atteints du cancer en Europe guérissent, alors qu'en Afrique, il n'y a que 20% par faute de moyens ou de sensibilisation peut-être. Donc, cette soirée servira à sensibiliser les gens parce que, comme pour tout le monde, les enfants, ils n'ont pas le sida ou le... Pour la plupart d'entre nous, les enfants, ils n'ont pas le sida ou le cancer, alors qu'ils sont beaucoup, beaucoup touchés. Ils sont, Donc, c'est pour ça qu'on organise cette soirée pour leur venir en aide. Et en 2020 aussi, on a pu remarquer que plus de 120 000 enfants sont morts du sida en Afrique. Alors, c'est des chiffres vraiment énormes et on aimerait faire baisser ces chiffres-là et surtout augmenter le taux de guérison du cancer en Afrique.
Vous qui désormais vivez à Paris, vous avez connu l'Angleterre, vous êtes en Europe depuis beaucoup d'années, mais... C'est très important pour vous de rester connecté à des réalités difficiles de votre continent, l'Afrique, et notamment dans le domaine sanitaire aussi, peut-être d'alerter, d'éclairer l'Europe, l'Occident sur ces réalités.
Des réalités que tout le monde connaisse, mais que peu de gens se bougent pour faire changer les choses. C'est vrai que peut-être il y en a certains qui font de leur côté, comme moi j'ai pu le faire avant, agir de mon côté tout seul, mais peut-être que cette fois-ci on a pensé à le faire tous ensemble et on aura beaucoup plus d'impact dans le continent africain. On, comme ça on pourra aider beaucoup plus d'enfants. Et je sors de ma notoriété pour aider ces enfants en Afrique et en Europe aussi.
Vous l'avez dit, vous êtes aidé, vous n'êtes pas seul, et notamment des personnalités qui vous soutiennent dans vos actions, qui soutiennent For Hope, d'autres joueurs de foot, mais pas que, des artistes, également.
En 2020, plus de 120 000 enfants sont morts du sida en Afrique. C'est à peu près un enfant qui meurt toutes les 5 minutes. On ne peut pas rester comme ça sans rien faire. C'est pour ça que le 12 mai, l'association For Hope organise un gala caritatif. Seul, on va plus vite, ensemble, plus loin.
88% des enfants vivant avec le VIH sont en Afrique subsaharienne. Plus de dépistage pour plus de résultats. C'est pour ça que je soutiens l'association For Hope qui organise un gala pour lever des fonds. Car seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin.
Idrissa Ganagay, on vient d'entendre Maître Gims, célèbre chanteur qu'on ne présente plus, mais également votre coéquipier au Paris Saint-Germain, Colin Dagba. L'idée, c'est d'avoir des personnalités qui permettent d'attirer la lumière sur vos actions, mais il y a aussi, entre guillemets, des anonymes qui vous aident à faire fonctionner cette association. Vous n'êtes pas tout seul, vous êtes évidemment la figure de proue, mais vous n'êtes pas seul dans ces actions.
C'est exactement ça, comme vous avez pu l'entendre à chaque fois, c'est le message qui revient, c'est... Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, avant, je le faisais seul. Peut-être qu'eux aussi, ils font seul de leur côté. Donc, si on réunit tous nos forces. Et pour ça, j'ai le soutien de tous mes coéquipiers au club et comme en équipe nationale. Et j'ai pu compter aussi sur Maître Gims, Dadju et d'autres chanteurs au Sénégal, comme Deep Dundou Gis ou le célèbre groupe Daredi Family. Bubu Design, Havilam, pour n'en citer que cela. Et beaucoup d'entreprises aussi au Sénégal ou des autorités sénégales comme en France aussi qui nous ont apporté leur soutien parce que dès que ça touche les enfants, tout le monde le sait, c'est beaucoup, les gens sont beaucoup plus sensibles et c'est des êtres humains qui n'ont rien demandé, qui sont peut-être nés avec le sida ou le cancer transmis par leur maman ou leur papa. Et voilà, on veut sensibiliser les gens dans ce sens-là pour éviter que ces genres de choses se produisent régulièrement ou affectent beaucoup plus les enfants. Donc on fait ce qu'on peut. En tout cas, on est très motivés, on est très passionné par ce qu'on fait. Et ce gala, vraiment, ça vient finir en beauté tout ce qu'on a fait jusque-là avec l'association.
Naïm Monial, vous avez une question pour Idrissa
Gueye. Bonjour Idrissa, c'était pour savoir un peu dans le prolongement de ce que vous dites. Est-ce que ça se limite à faire des dons financiers ou acheter des machines ou est-ce qu'il y a aussi des partenariats avec des hôpitaux en France pour partager les savoirs sur la formation des médecins au Sénégal peut-être pour essayer un petit peu de transmettre, de faire un lien entre les antennes médicales françaises et les antennes médicales sénégalaises?
Oui, c'est pas que des dons, on a aussi la GFAOP, on a Onicida qui est des groupes avec qui on est rentré en contact pour qu'ils puissent nous donner des informations exactes et surtout nous qui sommes experts dans ce domaine-là en Afrique, donc qu'ils puissent nous accompagner et qu'on puisse se tenir main dans la main pour avancer ensemble, nous apporter ce côté financier et surtout ce côté de notoriété pour pouvoir sensibiliser beaucoup plus de monde et eux nous apporter leurs expériences pour pouvoir avancer dans ces deux domaines-là.
Idrissa Gueye, venir en aide à ceux qui sont dans le besoin quand on a réussi comme vous avez réussi. Voilà, vous êtes un footballeur, même plus qu'un footballeur désormais au Sénégal. Vous êtes presque devenu une légende du pays. Vous l'êtes même totalement devenu. C'était indispensable, impossible de ne pas, quelque part, faire profiter les autres, et notamment ceux qui sont dans le besoin, de votre réussite.
Venant d'un milieu très modeste avec une famille peut-être qui n'arrivait pas forcément à subvenir à tous mes besoins, je me dois aujourd'hui de tendre la main à ces gens-là qui sont dans le besoin, que ce soit en Afrique ou en Europe, mais surtout dans notre continent. C'est qu'on est vraiment un continent qui est sous-développé, mais qui est en développement aussi. Donc, il faut se tourner vers ce continent-là, essayer d'aider les gens qui en ont besoin avec les moyens qu'on a, avec surtout de la volonté. Parce que, comme je le dis souvent, je préfère avoir quelqu'un dans l'association qui a beaucoup de volonté, qui a envie de faire d'aider les gens. Et pas payer quelqu'un qui vient surtout nous aider, mais qui n'a pas la volonté. Et voilà, c'est pour ça qu'on a envie de faire beaucoup de choses, mais on a besoin d'aide aussi. C'est pour ça qu'on lance cette soirée pour sensibiliser tout le monde et qu'on puisse prendre tout le monde avec nous dans ce sens-là.
Hervé Penaud.
Oui, bonjour, c'est un plaisir. Voilà, alors moi, je vous laisse plus qu'une question.
C'était bonjour, Hervé, ça va?
Et toi? Hey, félicitations,
ça va, c'est du
boulot.
Merci beaucoup.
Et alors là, je ne vais pas vouloir, vous me connaissez, je dis ce que je pense en général quand même, mais je voulais juste parler deux secondes d'Idrissa Gueye, que j'ai connu il y a quelques années déjà, on était jeunes à l'époque, jeunes
et beaux. Oui, depuis Lille.
C'était à Lille, et je peux vous dire que c'est vraiment un type hors norme. Franchement, j'ai connu beaucoup de joueurs, et il y avait deux joueurs comme ça à Lille qui, pour moi, étaient du même niveau, et d'ailleurs, comme par hasard, ce sont deux grands amis.
Ils sont en train de gonfler, là.
Non, mais je dis la vérité, parce que tu sais que je le pense, sinon je ne le dirais pas. Et c'était lui, évidemment, et Salomon Kalou, qui aussi a œuvré pour l'humanitaire en Côte d'Ivoire, à travers lui des dialyses, évidemment.
Qui fait partie de vos soutiens, d'ailleurs, pour l'association
Europe.
Tu imagines, c'est un grand frère, pour moi, un exemple.
Voilà. Et donc, ces deux joueurs, franchement, ont toujours été d'une rigueur sportive, déjà professionnellement, c'était à très haut niveau, évidemment. Et à côté de ça, avec l'entourage, images, avec les gens qui étaient autour d'eux. J'ai eu la chance quand même de le voir au Sénégal, le voir comment il se comportait avec les jeunes. Quand je me suis retrouvé une fois à Diambars, tu sais, les jeunes qui te couraient après, tu t'étais arrêté, le bus klaxonnait pour lui demander de revenir. Et toute l'équipe attendait et lui, il disait hop, un petit mot à l'un, un petit mot à l'autre. Quand vous avez vu ça, franchement, ça ne m'étonne pas aujourd'hui l'association qu'il peut avoir. Et puis bonne chance pour la suite. Et j'espère
merci
que ça
beaucoup.
Va fonctionner à merveille.
Et Jean-Philippe Bouchard,
merci
vous vouliez
oui, bonjour, Edressa.
Également vous adresser, Edressa.
Bravo pour cette action qui est admirable. Moi, ce qui m'intéresserait aussi, c'est de voir d'où elle vient, parce que vous avez été formé à Diambars. Et je me demande s'il n'y a pas une origine quand même à cet engagement dès ces premières années de formation. Est-ce que vous aviez eu l'occasion de discuter avec Jimmy Adjovi-Boko, Bernard Lama, à l'époque, qui avait lancé Diambars?
Oui. Bon, c'est exactement ça, en fait. On a été éduqués dans ce sens-là, surtout quand vous voyez ce que Diambars a fait pour moi et surtout pour beaucoup d'autres jeunes en Afrique. Donc, ils nous ont ouvert des portes, ils nous ont donné la chance de devenir aujourd'hui ce qu'on est. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir comme exemple, comme Jimmy Adjovi-Boko, Bernard Lama, Patrick Vieira et Sahir Seck. Avec toutes ces personnes-là, je suis toujours en contact avec eux. Donc, avant de faire quoi que ce soit, je prends toujours leur avis. Et ils seront là à la soirée aussi pour me soutenir, pour nous soutenir. Et je pense qu'aujourd'hui, ils sont très fiers de voir ce qu'on est devenu. Voilà, on espère qu'il y aura d'autres soirées, d'autres galas pour pouvoir venir en aide à toutes ces personnes qui en ont besoin.
Merci beaucoup Idrissa Ganagay, vous avez été très généreux comme vous l'êtes sur le terrain et dans
vous.
La vie, vous avez été très généreux dans Radio Foot. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous parler de votre association. Merci également à Sabrina Bellamy qui a permis cet entretien et qui nous a offert la possibilité de parler avec vous et de faire entendre votre voix et votre engagement aux auditeurs de RFI, notamment ceux qui sont au Sénégal. Merci beaucoup et excellente fin de saison,
merci.
Idrissa Ganagay.
Merci beaucoup. Allez, ciao, ciao.
Ciao.
Ciao. Et je rappelle donc l'association For Hope, comment on dit, tiré du 8,
underscore
association, ça c'est pour le compte Instagram, la page Facebook aussi de l'association For Hope pour avoir toutes les informations et puis une adresse mail également si vous voulez vous adresser à l'association cofondée par Idrissa Ganagay, For Hope Association, tout attaché, .2021@gmail.com. Une réaction sur cet entretien exceptionnel et Idrissa Ganagay qui nous parle de son engagement et sur ce que disaient Hervé Penaud et Naïm Moniol sur la qualité humaine d'un Idrissa
Ganagay. C'est ce que je pensais pendant en fait l'entretien avec Idrissa. D'ailleurs, merci à lui de l'avoir accordé. On se plaint souvent qu'en Afrique, beaucoup de gens qui s'occupent du foot et qui sont censés s'en occuper et bien s'en occuper le dévalorisent, le desservent, volent de l'argent, clairement, disons-le, n'ont pas de respect pour les joueurs, n'ont pas de respect pour les équipes, mais il existe quand même des types comme lui, comme d'autres, hein, qui font le job à la fois sur le terrain et en dehors, et heureusement qu'il existe encore des joueurs comme ça, parce que ça tend à montrer que finalement le footballeur c'est pas uniquement un type qui fait des caprices pour récupérer ses droits d'image quand il est transféré. On peut aussi donner de son temps, de ses moyens à son pays, qui plus est quand il est sous-développé, pour faire progresser les choses. Bravo à lui.
Alors c'est pas pour faire des généralités ou pour faire du clientélisme si je puis dire, mais finalement les grands joueurs africains ont une histoire de réinvestissement si oui. Je puis dire, de leur réussite dans leur pays. Alors l'exemple peut-être le plus frappant c'est Georges Weah qui est carrément décidé de devenir le chef d'état de son pays pour l'aider, mais Didier Drogba, enfin on a d'autres exemples de stars africaines qui s'engagent.
Parlons Sénégal, évidemment que Sadio Mané, tout ce qu'il a construit du côté de Mundiali, c'est magnifique, c'est vraiment... Non, parce que la plupart des joueurs quand même comme ça, africains, ils savent d'où ils viennent, hein, surtout ceux qui sont nés là-bas, qui ont été formés là-bas, ils savent d'où ils viennent, donc ils ont besoin de rendre ce qu'ils ont pu obtenir grâce aussi à leur pays d'origine, enfin leur pays de naissance, et c'est vrai que Sadio Mané, ce qu'il a fait aussi, c'est magnifique. Idrissa Gueye, puis il y en a plein qui ont des associations qui aident. C'est pour ça que c'est bien de les mettre aussi dans la lumière de temps en temps pour savoir ce qui se passe. Parce que les gens ne sont pas souvent au courant, parce qu'on voit des joueurs de football qui tapent dans un ballon, qui gagnent beaucoup d'argent. Mais il n'y a pas que ça. Il y a derrière des actions humanitaires qui sont à mettre en valeur.
Surtout que pour le coup, ce n'est pas quelque chose qui concerne le foot. C'est que souvent, les anciens, ils vont créer une académie, payer des terrains, des structures, des machins. Alors c'est très bien aussi. Hein. Mais là, pour le coup, ça concerne la santé. Dieu sait qu'en Afrique, il l'a dit aussi avec le sida, notamment. notamment, il y a toujours un retard à certains niveaux qui est dramatique. 120 000 enfants, moi je ne connaissais pas le chiffre, hein. 120 000 enfants qui meurent du sida par an, moi c'est effarant, ça fait peur. Et c'est bien aussi d'avoir aussi des moyens et des mis pour ces sujets-là, pas que je suis footballeur, tiens, je vais créer une école de foot. On peut aussi donner du pognon aux écoles, aux hôpitaux, c'est bien.
Et Jean-Philippe Bouchard, vous l'avez orienté, Idrissa Ganagay, sur Diambars et cette académie, donc, dont il est quelque part la meilleure réussite. Une académie qui se base pas uniquement sur la formation sportive, mais humaine, scolaire. Et je me souviens d'un entretien que j'avais eu il y a quelques mois avec Claude Leroy qui disait que justement former des footballeurs en Afrique, c'était pas seulement former des footballeurs, c'était former les citoyens africains. Donc c'est aussi ça la ressource du football sur le continent ou même pas que sur le
Bien
continent.
Bien sûr, et c'est beau de voir ça plus de 20 ans après, parce que Diambars c'est à peu près l'âge de Diambars, je pense.
C'est même plus que 20 ans.
Moi je me souviens, alors on avait accompagné. Moi j'étais à France Football à l'époque et on avait accompagné la création de Diambars. J'étais allé et on avait beaucoup. Et c'est vrai que à la fois, les fondateurs là, Sek Lama, Adjoubi Boko, Evia, ils insistaient déjà à l'époque, hein, alors qu'ils n'avaient pas encore produit les premiers footballeurs. Ils insistaient sur l'idée de former un homme. Former quelqu'un, former une personne, une belle personne, avant même de faire un footballeur. Et il savait très bien que même avec tout le talent et tous les moyens qu'il pourrait donner à cette académie, il y aurait quelques-uns, ils espéraient qu'il y en ait quelques-uns qui sortent. C'était le but affiché. Mais surtout, l'idée, c'était que ceux qui ne sortent pas, ils aient un beau bagage et une formation générale, parce qu'il y a de l'école aussi, hein, Diambars, et une formation générale qui puisse leur permettre d'affronter la vie et de bonne manière.
Avec l'OM maintenant. Maintenant, c'est en partenariat aussi avec l'OM. Et j'y étais récemment, là, quand je suis allé voir Égypte-Sénégal, et on discute avec CRC, il y a toujours évidemment la volonté de faire des hommes avant même de faire des footballeurs. Ça, c'est l'idée quand même qui se dégageait derrière le projet au départ. Et il y a des joueurs qui n'ont pas du tout réussi, mais qui ont réussi en termes d'études. Hein. Certains sont allés à droite à gauche.
Ce qui est important, c'est que ces gars-là, aujourd'hui, quand tu vois aujourd'hui le monde du foot qui voudrait qu'on prenne un gamin très jeune dès qu'il a un peu de qualité pour l'envoyer très vite en Europe et récupérer de l'oseille et se faire des réseaux. Finalement, ces mecs-là, un peu comme Idrissa Ganagay, Mané, c'est quasi un contre-pouvoir aujourd'hui en Afrique. Ils vont à l'encontre quand même d'un système qui est, alors pas qu'en Afrique, tu l'as aussi en Amérique du Sud, mais dès que le gamin, il a un peu de talent, il a un petit truc, on le met dans un avion, on l'envoie à Pétaouchnog pourvu qu'on récupère un billet.
C'était ça que vous vouliez dire, mais c'est une analyse.
Ça arrive,
tout à fait
valable. Il y a aussi des gens qui travaillent bien.
C'est bien de mettre en valeur les gens qui travaillent bien également. Et les footballeurs comme Idrissa Ganagay, qui reste néanmoins un footballeur, un homme engagé, mais qui est aussi un excellent footballeur. Simon Bourg-Tambour, peut-être rappeler son palmarès, rappeler aussi, alors on avait convenu avec lui qu'on parlerait de son association et pas forcément qu'on l'emmènerait sur le terrain sportif, mais on est aussi une émission d'actualité sportive on doit aussi rappeler que pour l'instant, même depuis quelques semaines, ça se passe pas forcément... très très bien pour Idrissa Ganagay du côté du Paris Saint-Germain.
C'est ça, il a connu des hauts et des bas depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. C'est au cours de sa troisième saison. Il a joué 110 matchs avec les couleurs du PSG, dont 85 comme titulaire. Il est souvent remplacé, que ce soit par André Herrera, Leandro Paredes ou encore Danilo. Donc si on se concentre uniquement sur cette saison en Ligue 1, il a pris part à 25 matchs sur 36, mais il n'a joué que 50% des minutes possibles. Il est donc souvent remplacé, c'est ce que j'ai dit. Et puis il n'est pas titulaire à tous les matchs, que 50% des matchs joués par le PSG en Ligue 1 cette saison. Donc pas toujours titulaire, souvent remplacé. Ça fait qu'il a des difficultés pour s'exprimer. Il a marqué 3 buts cette saison et une passe décisive en championnat. Ces 3 buts, c'était en début de championnat, en septembre 2021. Et depuis, c'est plus compliqué, notamment ces derniers temps, où il n'a pas eu la possibilité de jouer beaucoup en Ligue des Champions lors des 8e de finale. Il a marqué qu'un but, c'était encore en septembre contre Manchester City. Donc c'est un peu contrasté, mais ça reste un joueur généreux qui, comme à l'image de son interview, donne toujours tout ce qu'il peut sur le terrain.
Oui, et puis qui, avec sa sélection, a évidemment signé une année exceptionnelle avec cette canne soulevée, un taulier de l'équipe du Sénégal, ça, il n'y a pas de débat. Et puis, évidemment, ce deuxième mondial qui arrive. Mais c'est vrai que cette saison, elle est un peu à l'image de son parcours au PSG, c'est-à-dire des débuts incroyables. Vraiment, en tout début de saison, il était peut-être le meilleur joueur parisien et
d'exercice quand Neymar et Messi jouaient pas en fait.
Il y a quelque chose d'un peu contrasté dans son parcours parisien.
Pour une raison bien simple, lui c'est un joueur collectif, éminemment collectif. Et à partir du moment où vous avez des joueurs qui ne jouent pas collectivement, mais de toute façon tous les milieux de terrain du Paris Saint-Germain se noient. À un moment ou un autre, vous avez pu tous les mettre. Un jour, c'était Paredes.
À part Paredes,
autre,
parce qu'il joue au poker.
Voilà, les uns, les autres, etc. Vous les mettez tous, et puis ils ne voient pas la balle. Parce que quand vous n'avez pas un joueur devant qui fait un effort défensif, mais comment voulez-vous que les récupérateurs, surtout lui, Gay, moi j'ai toujours adoré comme joueur, je pensais même quand il était à Lille, le Paris Saint-Germain aurait dû le prendre plus tôt. Mais c'est un joueur, c'est un peu le profil, c'est à l'époque un peu comme Matuidi, c'est-à-dire c'est des joueurs qui se mettent au service des autres, mais il faut que les joueurs jouent collectivement. Lui, il est très fort dans la récupération haute de la balle, le pressing haut, pouvoir se projeter.
La projection.
Mais si vous n'avez pas un joueur à 6 mètres de vous, la balle, vous la voyez à 3 mètres.
Oui, parce qu'il faut être honnête. Herrera avait aussi réussi un début de saison canon avant de disparaître.
Quand Messi et Neymar ne jouaient pas, en fait.
Et Paredes et Danilo Pereira. On va dire qu'il n'y a que Verratti. Je ne parle même pas de Wijnaldum. Il n'y a que Verratti qui, on va dire, surnage. Et même lui est parfois contesté.
Il est encore en difficulté.
Et puis, juste. Sur Verratti, c'est aussi un match sur deux au PSG.
Oui, c'est pour ça.
Parce que l'autre, il ne le joue pas aussi.
C'est bien pour préciser qu'Idrissa Gueye, ce n'est pas le point faible du milieu de terrain du PSG.
Certainement pas. Mais Gueye, c'est un mec qui ne correspond pas au PSG. Ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas le niveau, hein, mais il ne correspond pas au PSG. C'est une équipe d'individualité où on va mettre en avant le marketing, la pub. La vérité, c'est que vous disiez qu'il était très fort en début de saison. Oui, quand Neymar et Messi ne jouaient pas. Quand le PSG s'appuyait sur un autre visage, quand on était sur des fondamentaux plus collectifs, avec plus de jeux, voilà. C'est un milieu box-to-box qui peut couvrir les trois postes du PSG quand même. Faut pas l'oublier. C'est même un type que dans un 4-3-3, tu peux même être 2-6, c'est lui en pointe haute. Il a beaucoup de qualités et même des vraies qualités pour porter le ballon, pour éliminer. Bien sûr qu'il a des qualités physiques de récupération. Mais avec un ballon, il n'est pas maladroit. Il est moins maladroit qu'un Danilo ou qu'un Paredes. Mais la vérité, c'est qu'il ne correspond pas au PSG. Et je bien me garder de lui donner des conseils parce qu'il a une très bonne carrière et il est certainement bien entouré, mais à 30 ans, si tu veux terminer en beauté et continuer à bonifier les années qui te restent, quitte ce club. Va dans un club peut-être moins huppé, mais qui te permettra de mettre en avant tes qualités.
En tout cas, il a gagné deux championnats de France avec Paris, c'est ça, et puis un doublé avec Lille. Il était déjà là.
Ouais, le doublé Ligue 1 Coupe de France en 2011 avec Lille. Avec le PSG, il a aussi gagné la Coupe de la Ligue, la Coupe de France deux fois. Donc il a un palmarès qui est quand même impressionnant en France. Ouais.
Plus une Coupe d'Afrique des Nations.
Coupe d'Afrique des Nations.
On parle effectivement d'une très belle carrière. Il a 32 ans, fin de contrat. Dans un an, est-ce que vous voyez rester à Paris?
Bien sûr, le dernier obligatoire, la dernière année. De toute façon, on verra qui sera l'entraîneur, quels seront les joueurs qui seront encore là.
Mais le problème, ce n'est pas l'entraîneur à Paris.
Non, mais quels seront les joueurs qui seront encore là? Tout est là aussi. Hein. Comment on va être structuré cette équipe? Qui va jouer au milieu de terrain avec lui? Mais de toute façon, il faut aller au bout du contrat. Hein. Il a un super contrat à Paris. Quel est l'intérêt de partir? Pourquoi? Là, vous êtes dans un club ultra ambitieux. Parce que l'année prochaine, ils partent encore pour essayer d'aller le plus loin possible en Ligue des Champions. Je ne dis pas la gagner, mais aller au moins le plus loin possible.
C'est tout le mal, entre guillemets, qu'on lui souhaite à Idrissa Gueye. C'était quand même la classe de pouvoir l'entendre.
Rappelez-vous ses matchs contre le Real Madrid, Manchester City.
Mais on s'en rappelle et on en redemande quelque part et on aimerait
rarement en dedans lui hein.
Voir encore davantage d'Idrissa Gueye sous le maillot du PSG, le PSG déjà champion de France, donc on le met de côté. On va parler de ce qui se passe un petit peu en dessous, toujours en Ligue 1.
Ouvre, on sait que t'es là.
Faut défoncer au Bélier.
Attendez, d'abord on négocie, la violence après.
Aimé, je sais que vous êtes dans ce bureau. Sortez, il y a un match à commenter dans 2 heures.
C'est la Ligue des Champions?
Non, le Championnat de France.
Championnat de France? Plutôt crevé, je sortirai pas.
Aimé, c'est Michel Denisot. Allez, viens commenter, ça va être un beau match, promis.
C'est quoi un beau match?
Strasbourg-Lille.
Il fut un temps où se moquer de la Ligue 1 était tendance et les guignols, les marionnettes de Canal+, feu les guignols, le faisaient très bien. C'était au milieu des années 2000 quand Lyon gagnait la Ligue 1 tous les ans. Aujourd'hui, les temps ont bien changé. Le championnat de France est plutôt sympa à suivre. Sa course à l'Europe et à la Ligue des Champions, notamment, à laquelle Noël ne participe pas. Mais ça, c'est pour plus tard dans quelques minutes. Auparavant, on va parler, messieurs, de la lutte pour le podium, deuxième et troisième place. Simon, quelle est la situation à deux journées de la fin? Qui est deuxième, qui est troisième?
Ben vous l'avez dit, le PSG est champion, c'est acté. Derrière, Marseille semble plutôt bien parti pour la deuxième place. Après, ça se corse. Dans l'ordre, on a Monaco, Rennes, Strasbourg et Nice qui se tirent la bourre. Les Monégasques et les Niçois, ils ont un match de retard qu'ils jouent demain. C'est l'occasion pour eux de grappiller quelques précieux points. Nice reçoit le 18e Saint-Etienne et Rennes se déplace à Nantes, qui est récent vainqueur de la Coupe de France. C'est donc deux matchs qui vont être très importants dans la course à l'Europe et qui pourront déjà un peu plus nous dire ce que va donner le classement final.
Alors, vos pronostics, tout simplement, mon cher Naïm Moniol, dans le sprint final, à l'issue même de ce sprint, qui sera en Ligue des Champions, qui sera sur le podium aux côtés du Paris Saint-Germain?
Marseille va rester parce qu'ils ont en plus 6 points d'avance sur Rennes.
À la deuxième place.
Voilà, à la deuxième place, même c'est une équipe qui joue bien, qui va bien finir. Et moi, je vois Monaco prendre la troisième place. Je pense qu'il faut en fait du Monaco, une fin de saison tonitruante, malgré toutes les péripéties qu'ils ont vécues, le changement d'entraîneur, ils reviennent bien. Golovin revient bien, Ben Yedder, Roland, ils sont tous là au bon moment.
On va développer après, mais je
Marseille-Monaco.
Marseille-Monaco. À ma droite, Hervé Pedot.
Rennes et Marseille.
Ah, dans cet ordre-là?
Oui. Ah, vous j'ai le droit ou pas?
Bah, bien sûr.
Vous me dites ça avec un petit air.
Non, non, c'est surprenant puisque.
C'est-à-dire que Marseille fait 0 point sur les derniers matchs. Donc.
Eh ben, on va en débattre. Faites vos calculs.
Oui, sortez
vos.
Voilà,
vous pouvez poser les additions, les divisions, les soustractions. Vous êtes un matheux, mon cher Hervé. Jean-Philippe Bouchard.
Bah, Marseille, parce qu'ils ont plus que ça à jouer maintenant, pour le coup. Donc, ils vont se concentrer un peu sur ce qu'ils ont à faire. Et puis, moi, je crois un peu comme en politique, vous savez, les sondages juste avant la présidentielle, là, c'est la tendance qui compte, c'est pas vraiment la valeur absolue,
c'est
mais
la dynamique.
Voilà, la dynamique. Voilà. Et la dynamique, elle est chez Monaco en ce moment, donc je crois que Monaco peut le faire.
Donc on a deux Marseille-Monaco et un Rennes-Marseille. Vous êtes en minorité, donc
de manière très fair-play, vous donnez la parole.
Hervé est très fort d'augure.
Très simple, moi je pense que Rennes va finir en trombe. Donc ils vont faire 3 victoires. Pourtant, c'est pas simple pour eux, parce qu'elle est à Nantes.
T'as vu le calendrier?
Oui, bon, oui.
Il y a Marseille, ils finissent par Lille.
Et ben voilà, tout est là. Tout est là. C'est-à-dire, c'est la réception de Marseille. Ils vont recevoir à Marseille. Alors, on ne sait même pas qui sera sur le terrain, parce qu'ils ont quand même quelques blessures. On nous dit qu'il y a finalement peut-être que Bakambu qui ne sera pas là, mais d'autres devraient être là. Bon, toujours est-il, on ne sait pas, à part Payet, hein, évidemment. Là, pour le coup, on est sûr qu'il ne sera pas là. Mais si Marseille Marseille, Rennes passe devant Marseille. S'ils gagnent demain, de toute façon, tout va se jouer demain. Après, vous avez un dernier match, effectivement, qui ne sera pas simple, hein, à Lille. Ça, ce n'est pas facile du tout. Mais enfin, je crois, alors on parlait des dynamiques, je crois à la dynamique positive de Rennes, qui a un football flamboyant, un peu feu follet. Et j'ai la sensation qu'eux, ils peuvent aller au bout. Gomis revient, il va devenir titulaire dans les buts. Donc, non, moi, j'ai la sensation que tout
c'est marrant, parce que moi, j'ai vraiment la sensation inverse. C'est qu'une équipe, Rennes,
oui,
qui est très bien joué.
Pourquoi est-ce que vous ne voyez pas Jean-Philippe Henné Rennes sur
mais
le podium
d'abord parce que faut quand même admettre que Monaco revient en trombe et qu'ils sont très bons. Premièrement, Tchouaméni retrouve son niveau, Golovin, et deuxièmement, j'ai l'impression que Rennes, comme un peu l'année dernière, comme un peu l'année d'avant, quand ils ont commencé à titiller ces places européennes et le podium, chaque fois qu'ils sont arrivés à ce moment-là de la saison dans les gros matchs, ils se sont craqués. C'est une équipe qui joue très bien, une des équipes qui a le mieux joué avec Marseille cette saison. C'est la deuxième attaque du championnat, gros pouvoir offensif. Mais j'ai quand même l'impression que sur les matchs importants, quand ça commence à avoir un petit peu le parfum de la Ligue des Champions et les matchs qui te font basculer, ils le perdent. Là où Monaco ne perdra pas. Peut-être. C'est une histoire de pression, de gestion de la pression, peut-être d'expérience, ça peut être de culture, appelez ça comme vous voulez. Et je maintiens la qualité de jeu de Rennes, hein, très très bien.
Et c'est ça, j'ai un peu envie d'aller naïvement sur le terrain de la justice. On sait très bien qu'il n'y en a pas en football, mais c'est bien une équipe qui a renvoyé une excellente image de la Ligue 1 cette saison, c'est quand même Rennes. C'est-à-dire que si toutes les équipes en Europe, et je ne parle même pas qu'à l'échelle de la France, jouaient comme Rennes, le football serait plus agréable à suivre. Vous pouvez imaginer que Rennes ne soit pas récompensé par un podium à la fin de la saison.
Entre Rennes et Monaco, on a un peu l'impression qu'il y a une équipe qui est un peu en sur-régime, Rennes, et Monaco qui était un peu en sous-régime toute la saison et qui va finir en tremble.
Je pense qu'en fait, Monaco retrouve le niveau qu'il aurait dû avoir sur les 4, 5, 6 derniers mois, en fait.
Il a peut-être eu un peu... Depuis qu'ils ont viré Kovac, hein, erreur majeure.
Oui. Oui,
bah, pas tant que ça finalement, puisque le Belge qui les relève.
Ah, pas du tout.
Ça n'allait pas
absolument,
avec Kovac.
Absolument pas. Ils font un mois de décembre, ils sont énormes, ils doivent faire 3 victoires, c'est 1 nul. Hein. C'est-à-dire que ça y est, ils étaient repartis comme l'année dernière, ils n'avaient plus que ça, un match par semaine, c'est terminé. Et puis finalement, ils mettent un nouvel entraîneur qui, effectivement, il prend son temps, hein, parce qu'il faut qu'il trouve les associations, comme tout le monde. Il met Jean-Lucas titulaire, comme Kovac d'ailleurs au départ, au bout d'un moment, il le vire. Et il revient à son association Tchouaméni et Fofana
qui redevient énorme.
Et donc, il lui faut un mois et demi, deux mois. C'est le mois et demi, deux mois Benoît qui a manqué. Si vous aviez Kovac, moi je suis persuadé qu'il y a Kovac.
Mais apparemment, le vestiaire était à saturation avec l'entraîneur croate.
Vous savez, il y a un joueur qui n'est pas content, deux joueurs, tout le reste, apparemment, ça allait. Il n'y avait pas de souci. Et puis que Ben Yedder, visiblement, il ne fait pas les matchs en entier non plus.
Simon Bourtembourg, Philippe Clément, à la faveur des suffrages.
Moi, en tant
ce coach belge, mais il est quand même un peu attaqué par
Hervé Penaud.
Vous n'en faites pas l'homme de la fin de saison de Monaco.
Il en fait
pas
l'homme
de la saison prochaine. C'est celui qui malheureusement a dû prendre
Nico
du temps.
Kovac.
Oui, ça s'est mal passé avec... ça s'était bien passé avec Nivo Kovac. Rappelez-vous quand même qu'en fin février, il voulait virer tout le monde à Monaco. Clément en premier, en se disant ouais, c'est fini, Clément, Mitchell,
oui,
là,
comme
ouais.
Chaque année. Comme chaque année, il veut virer tout le monde.
Monaco, c'est vraiment. Enfin, Clément, c'est vraiment un entraîneur auquel il faut faire confiance sur le long terme. Avec Bruges, il a fait de très bonnes choses.
Au bout de six ans.
Oui. Mais il les a quand même ramenés sur le top du championnat belge alors qu'ils n'étaient plus du tout au niveau et il a gagné beaucoup de trophées. Et Monaco, quand on regarde le calendrier, il rencontre quand même Brest et Lens qui sont peut-être des équipes qui sont plus à leur portée.
Et ben on verra à Lens. Rappelez-vous l'année dernière.
De Rennes ou même de Marseille.
Rappelez-vous l'année dernière. Dernier match, Lens-Monaco. Monaco doit gagner à Lens pour assurer une place 3e, en tout cas le tour préliminaire de Ligue des Champions. Et si Lyon bat Nice à domicile, Lyon mène à la mi-temps contre Nice et puis explose. Bizarrement, les joueurs font plus n'importe quoi pendant 45 minutes, ils perdent 2-1 ou 3-2. Et de l'autre côté, Monaco, à Lens, avec la victoire nécessaire, ils n'ont jamais pu gagner. Donc, ça se saura un peu. Et Lens est en pleine bourre. Lens, ce n'est pas une équipe qui va lâcher. Non. Dernier match à domicile, avec la dernière, certainement de Fofana, chose comme ça.
Et puis de Klose, et puis peut-être de Kalimuendo.
Ce sera
probablement une belle fête à Bollard. On aurait dû demander à Driss Aganagaï ce qu'il pense de Philippe Clément, puisqu'on se rappelle que pour son entrée en lice en Ligue des Champions, son Bruges avait accroché le Paris Saint-Germain. C'est la première même du fameux trio... pas si magique que ça à l'époque devant. Alors là où vous êtes d'accord messieurs, c'est Marseille donc sur le podium, à la deuxième ou à la troisième place c'est selon, Marseille c'est bon, tout est assuré pour la fin de saison. Pourquoi est-ce que vous êtes si confiant?
Marseille c'est jamais tout bon, attention.
C'est jamais la simplicité.
Il reste deux matchs, il n'en reste pas 10. Marseille a quand même un matelas de points, alors même s'il y a un match en retard à Rennes qui est confortable. Il y a, même si Payet manque, il y a quand même un effectif de qualité. Ils vont marquer des buts. Ce qui s'est passé en Coupe d'Europe, je pense que ça leur a mis un petit coup derrière la tête, mais que justement, ils vont vouloir bien finir le championnat. Puis il ne faut quand même pas oublier un truc. Avec la défaite de Leipzig en Ligue Europa, la troisième place, elle est barragiste en France. Et on sait, on connaît l'historique des clubs français en barrage. Je pense que les dirigeants marseillais n'ont pas envie de le faire, le barrage. Donc je pense qu'ils vont mettre tout ce qu'il faut sur les deux derniers matchs pour essayer de sécuriser la deuxième place. C'est une équipe qui joue bien, Marseille, qui prend des buts. Malheureusement, ils ont quasiment ils ont pris 602 matchs et ils ont perdu sur la Coupe d'Europe contre Feyenoord. Mais c'est une équipe qui joue bien, qui se crée des occasions. Ils arrivent pas, ils ont un peu de mal à les mettre en ce moment, mais globalement, ils y arrivent. Non, je vois pas. En fait, je vois pas Marseille. Là, pour le coup, vous parliez de justice tout à l'heure. Bah, ça serait pas juste que Marseille tombe du podium.
Le calendrier de Marseille.
C'est ça. Marseille rencontre quand même Rennes et Strasbourg, deux équipes qui justement sont dans la course à l'Europe et donc qui pourraient poser des problèmes.
Oui, finalement, il y a quand même un calendrier très relevé pour Marseille avec des absents. Donc
c'est pour ça que je suis pas ultra confiant pour Marseille. Monaco peut même peut-être les gratter, mais par principe, j'ai voulu mettre.
Mais là aussi, on serait face à une sacrée injustice.
Pourquoi ?
Il y a aucune... penser comme Naïm, c'est une équipe qui a quand même.
Au bout de 38 journées, le but, c'est pas d'être premier à la 6e, 19e, 26e. 38 journées, c'est la logique du championnat qui est respectée. Ça peut se jouer des fois, une frappe sur un poteau, tout ça, mais 38 journées, bon.
Personne ne convainc personne de changer d'avis. Vous restez tous sur vos impressions.
Alors, vous sortez Rennes. Écoutez, on va enregistrer cette émission. Oui, vous avez sorti Rennes du podium. Vous avez osé sortir la Bretagne du podium.
On va ressortir la bande et puis on diffusera vos portraits sur les murs de Rennes et de Saint-Malo et de la Bretagne.
Et même de Quéritipamar.
Ouais, là, à mon avis, vous allez devoir passer vos vacances dans un autre endroit.
Les affiches vont tomber. Il pleut tout le temps. Au bout de 10 minutes, on ne reconnaîtra pas.
Oh là là,
je Alors qu'en Picardie, bah écoute, un beau soleil.
On a 28, on a un grand soleil, on est pas mal.
Allez, a priori trop loin de nos futurs Européens, il y a au centre de la France, un peu vers l'est, entre Saône-et-Rhône, l'Olympique Lyonnais et sa saison en enfer.
Il faut choisir les hommes qui correspondent en fait au projet, et notre projet est d'aller le plus haut possible, et en France, et en Europe. Donc Peter Bosz correspondait parfaitement à cette description.
On voit cette image. Ouh, la bouteille en plus.
Plus la bouteille pleine.
C'est absolument
scandaleux de viser les joueurs. Et on revoit cette image qui va faire beaucoup de bruit, bien sûr, dans les heures et dans les jours à venir.
Je vais bien réfléchir, mais dans ma tête, c'était pour 3 saisons. Donc, j'espère bien finir. Moi, j'ai envie de me reposer un peu et peut-être essayer d'avoir d'autres choses.
Cornals sous les sifflets. Et Jack Dawson. Ah, il vient glacer le Groupama Stadium. Allez, c'est terminé. Les illusions perdues de l'Olympique Lyonnais, l'espoir d'une épopée européenne évanouie.
D'une semaine à l'autre, tout peut changer. Il y a une semaine à Marseille, succès probant dans l'Olympico. Et puis patatras, la semaine d'après, déplacement chez le dernier. Défaite pour l'OL, 3-2.
Une saison en enfer ou bien une saison à l'envers, pour reprendre le titre d'un long article, hein, sur 3 pages tout de même, une enquête peut-être que je peux utiliser ce terme, à lire dans l'équipe, le journal L'Équipe ce mardi, article signé Vincent Duluc, Hugo Guillemet et Hervé Penaud. Une saison en enfer à l'OL, bien évidemment, et vous venez d'entendre, grâce au talent d'Alice Ménard, le film sonore, hein, de cet exercice 2021-2022 chaotique, hein, pour le septuple champion de France. Donc on a pêle-mêle évidemment des contre-performances sportives, mais aussi un psychodrame dans les hautes sphères, le départ de Juninho, les problèmes avec les supporters qui lancent des projectiles sur les joueurs de l'OM, l'élimination peu glorieuse contre West Ham en Ligue Europa. Et encore, on vous a épargné l'un des épisodes qui a beaucoup fait parler dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, l'épisode des flatulences du défenseur Marcelo en début de championnat, qui aurait valu la colère de Juninho et son exclusion, sa mise à l'écart du groupe. Lyon, septuple champion de France, saison en enfer, qui risque fort l'OL de ne pas être européen. C'est pas encore tout à fait mais
il faudrait vraiment un petit miracle pour voir Lyon en Europe. Lyon qui a perdu face à Metz le week-end dernier. L'Europe était illusoire avant cette rencontre. Maintenant, c'est quasiment impossible, puisque en Ligue 1, la 5e place est synonyme de place en Ligue Europa Conférence, cette nouvelle compétition européenne. Avec 60 points, Strasbourg et Nice sont respectivement 5e et 6e. Si Nice gagne demain à Saint-Etienne dans le cadre d'un match de la 35e journée, ce sera définitivement terminé pour Lyon, qui ne pourra plus espérer atteindre la 5e place et donc l'Europe.
Qu'on l'entende, qu'on le lise, qu'on le décrive, cet exercice lyonnais, la pire saison depuis 25 ans en championnat, a priori, c'est terrible pour un club qui a longtemps été le modèle des clubs en France, le mieux géré. Ola, c'était le meilleur président de France. Et là, c'est presque le château de cartes qui s'écroule en 2022.
Alors, il ne faut pas aller jusque-là, parce que effectivement, sportivement, la saison est catastrophique. Économiquement, c'est un petit peu différent. Tout ce qui est en train de se construire autour du stade, on a parlé notamment l'aréna pour l'équipe de basket de l'ASVEL. Il y a pas mal de choses qui sont en train de se mettre en place. Le tennis, un tennis aussi juste à côté. Alors, c'est bizarre de parler de tout ça alors qu'on est quand même sur un club de football, évidemment. C'est que ça a tellement diversifié, parce que c'est le seul moyen pour eux d'arriver à engranger de l'argent face aux nouvelles puissances naissantes, que Lyon s'est un peu perdu dans tout ça. Ils sont un peu perdus, et en oubliant que le nœud du problème, c'était évidemment le football. Et depuis quelques années, puisque c'est pas lié à cette saison-là, hein, c'est depuis quelques années, on sent une petite déliquescence venir petit à petit. Alors, il y avait les critiques des supporters envers Genesio, Garcia, alors que c'était encore une équipe qui arrivait...
Alors qu'ils étaient troisième.
Troisième ou quatrième.
Aujourd'hui, ils sont huitième, Peter Bosch.
Au passage, Genesio, donc l'entraîneur de Rennes, dont on a vanté les mérites il y a quelques instants.
Donc, alors, il y a eu ça, et puis, il y a eu plein d'erreurs, des choix, des erreurs de recrutement.
Juninho,
c'est peut-être pas l'homme de la situation, parce qu'il ne correspondait pas complètement au poste. En plus, ça l'a peut-être pas aidé non plus, parce que quand vous arrivez dans un poste comme ça et que vous n'avez aucun contact, c'est pas simple. Il faudrait peut-être être bien entouré. Ça fait qu'en plus, il a un tempérament bien à lui. C'est quelqu'un d'assez affectif, on va dire. Donc, ça a créé des tensions en interne avec d'autres qui étaient un peu plus dans une autre dimension, plus comptable que sportif, d'une certaine manière. Ça fait qu'on s'est retrouvé avec un embrouillé. Le mot ne vient pas. Voilà. Donc, ça a été une catastrophe depuis le début de saison.
Et il y a des historiques qui sont partis.
Un broglio, voilà.
Dans les hautes sphères. Gérard Houllier est décédé.
Florian Maurice, qui est parti. Quand on critique le recrutement de Lyon.
Les parts d'actionnaires historiques aussi.
Oui, bien sûr, mais
Seydou.
Seydou notamment, ouais, mais
pas pour les mêmes raisons. Mais
de toute façon, dès lors que Lyon n'est pas en Ligue des Champions, c'est une saison ratée. C'est le deuxième budget de France. Ils sont propriétaires de leur stade, ils ont meilleur centre de formation de France. Il y a du pognon, il y a des objectifs. C'est aujourd'hui le rival affiché du PSG. Donc même quatrième, c'est pas une bonne saison pour Lyon. Alors après, évidemment, cette année...
Oui, mais on avait des supporters qui n'étaient même pas contents quand ils finissaient deuxième. On a l'impression que ça fait longtemps qu'on n'est pas très contents du rendement lyonnais.
Oui, mais après, il faut aussi que les supporters essayent d'être intelligents. Aujourd'hui, lutter avec le PSG, c'est ridicule. Sur 38 journées, c'est ridicule. Vous pouvez les taper sur un match sur 10 mois, c'est pas possible. Et puis il y a quand même quelque chose qu'il faut dire, c'est que
Lille et Montpellier, c'est-à-dire qu'ils ont l'image en se disant Lille l'a fait, Monaco l'a
fait. Il y a quelque chose que je trouve à Lyon, c'est que Lyon est parti du principe que pour être un grand club, il fallait avoir un entraîneur étranger. C'est-à-dire que quand il avait Garcia et Genesio,
uniquement cette saison,
il y a eu Silvino quand même. Oui. Donc quand il avait Garcia ou Genesio, qu'il était deux ou troisième, c'était pas les hommes de la situation, c'était des pompes. Il manquait de charisme, ils avaient tout. Bon, Silvino, il est venu, il est parti, c'était n'importe quoi. Bosch aujourd'hui, je trouve quand même complètement ahurissant que ce type ait un espèce de totem d'immunité sous prétexte qu'il est hollandais, il connaît le football, parce que nous, comme on est des crétins de français, on ne connaît pas. Donc lui, il va venir nous expliquer un peu comment ça marche. Bon, résultat des courses, il avait une équipe qui tournait pas trop mal en première partie de saison, notamment avec Paqueta. Il a mis Paqueta à peu près tous les postes jusqu'à le flinguer. Aujourd'hui, l'autre, il n'arrive plus. Peut-être qu'il ne fait pas tout bien dans sa vie privée non plus, mais au moins sur le terrain, c'est plus très bon. Il a bricolé des défenses. Je crois pas qu'à Lyon, il y ait eu deux fois la même défense de suite. Et j'aimerais savoir le nombre de défenses qu'il y a eu à Lyon, parce que finalement, offensivement...
Pas, c'est pas Peter Bosz qui est responsable de tous les maux de
Non, il,
sait, de
bah,
Lyon,
il est quand même responsable. Il est quand même responsable de ce qui se passe sur le terrain, des dispositions tactiques, des animations, des choix de joueurs, des choix de coaching. Et force est de constater qu'il y a eu beaucoup d'erreurs de Peter Bosz cette année, en championnat et en coupe. Mais, c'est ce que je vous disais il y a 30 secondes, lui, il a le totem. Il fait ce qu'il veut. Un Genesio, on l'aurait cloué au pilori. Un Peter Bosz, il fait ce qu'il veut. Moi, je trouve que c'est une erreur.
Jean-Philippe Bouchard.
En fait, ce que décrit Naïm est la conséquence de l'évolution du club, mais de façon profonde. Pendant 30 ans, quand Olas a construit ce club, qu'il a pris en D2, où il n'y avait rien, il n'y avait pas de centre d'entraînement. Enfin, voilà, c'est la construction, on va dire, immobilière de l'OL et économique de ce club est remarquable. Il y a un effet, c'est une réussite pas absolue, mais
l'entreprise Lyon est énorme.
Il a pérennisé ce club pour les années à venir, c'est très bien. Par contre, sportivement, il y a un problème parce que l'encadrement du club, l'équipe de base que Olas s'était constituée pendant près de 30 ans et qui tournait bien et qui tenait le club à tous les niveaux, c'est peu à peu, mais c'est la faute de personne, c'est le temps. Hein, les gens ont arrêté. Il n'y a plus que Olas qui est en place et qui incarne le club. Mais tous ces soutiens historiques qui tenaient administrativement, sportivement, le club sont tous retirés progressivement.
Même dans le stade technique, il y a des historiques, des Lyonnais, exactement. Genesio.
Et la relève, c'est pas aussi simple parce que maintenant, en plus, il y a une exigence de résultats rapide, une demande rapide, puisque maintenant, ça y est, le cas du stade, il est réglé. Enfin, voilà, il y a les dettes sont à peu près épongées. Enfin, voilà, maintenant, il y a une exigence, il y a une impatience. Or, il n'y a pas la structure et la sérénité qu'il y a pu avoir pendant les années glorieuses qui vont en permanence venir cogner face aux résultats actuels. C'est-à-dire, cette fois champion de France, il est aujourd'hui.
D'autant qu'on fête les 20 ans du premier titre de champion de France glané par l'Olympique Lyonnais.
Ce duel entre Sidney Gombou et Adama Koulibaly, il est passé. Cette fois-ci, Sidney Gombou, il a évité le tac. La frappe et l'ouverture du score de Sidney Gombou après 7 minutes en première période. C'est fini. C'est fini pour la première fois dans son histoire. L'Olympique Lyonnais est champion de France.
Oui, pour rappeler aux plus jeunes qui nous écoutent, 2002, le début d'une longue série pour l'OL, 7 titres de champion d'affilée. Maintenant, on en est loin, Simon Bourtembourg.
Ah ben oui, et puis il y a le dernier titre de l'Olympique Lyonnais, c'était il y a 10 ans, en 2012 avec la Coupe de France. Aujourd'hui, en championnat, ils sont 8e. Pour remonter, il faut remonter à la saison 1996-97 pour voir un résultat pareil. Donc c'est vraiment difficile cette saison pour Lyon.
Voilà. C'est le mot de la fin, une note négative pour terminer. Si vous nous écoutez, que vous êtes supporter lyonnais. Merci Hervé Penaud.
Ça va revenir,
merci Jean-Philippe Bouchard, merci Simon Bourtembourg, merci Naïm Moniol, à demain.